Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Nous sommes au mardi 2 juillet 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que nous sommes dans l'émission Club de la presse et c'est le deuxième numéro pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Kossi était d'ATV, était à la mise en onde. Jérôme Dakouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Mihor Radio, La Paix à Takpames, KFM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dabaon. Vous avez également ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Lébénais. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Adam Andronou, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, bonjour chers confrères, bonjour auditeurs et auditrices de Canal FM.
Et j'espère que tu as bien démarré la semaine.
Ça va, on rend grâce à Dieu.
C'est l'essentiel. Ouais. Eric Parkoudjo-Josson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM.
Jean-Baptiste Attissou. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier.
Surtout sur nos plateformes digitales, YouTube, Facebook et autres.
Naturellement.
Puisque nous sommes en direct, bien sûr, alors sur ces plateformes. Justin Anani, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou.
J'espère que tu vas bien.
Très bien.
D'accord, tu rejoins l'équipe, tu es là ce matin, alors journaliste, bien sûr, pour qu'on discute alors de l'actualité.
Avec plaisir. Bonjour à tous les confrères, bonjour à l'invité, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde, tous ceux qui aiment votre émission.
Ils sont nombreux à aimer notre émission et ils réagissent.
Je crois que c'est un devoir et nous sommes là pour l'accomplir.
D'accord, c'est très important. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez fait un clin d'œil à ceux qui nous suivent partout dans le monde et au Togo, bien sûr. Et déjà à partir de midi, nous savons mieux le faire. Nous leur donnons aussi la parole d'intervenir dans cette émission, de participer à ce débat avec nous. Et c'est sur le 22 21 33 114 et le 91 36 63 75 avec ces deux numéros. Sous le coup, alors de midi, ils peuvent facilement
participer à cette émission comme cela se doit, parce que nous animons cette émission avec vous qui êtes aussi à la maison, vous qui êtes au bureau, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Justin, vous le disiez tout de suite, nous avons un invité, bien sûr. L'invité, c'est bien Sam Kodjovi Adam Bounou. Sam, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ça va bien, par la grâce de Dieu.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes aussi acteur de la société civile, et vous avez beaucoup de d'actes, hein, ou beaucoup de cordes à votre arc, comme on le dit d'habitude. Et, mais ce matin, je vous reçois à propos alors de ce livre que j'ai entre mes mains. Et c'est un livre intitulé « Un voyage à travers la jeunesse ». Alors, c'est un voyage que vous faites dans ce livre ?
Oui, merci Pascal pour l'opportunité. Je crois quand même que, la vie c'est un voyage en général. Et lorsqu'on part de l'adolescence à l'âge adulte, c'est aussi un autre voyage. Et je crois que la jeunesse constitue, la période de la jeunesse constitue une période charnière dans la vie de l'homme. Elle enseigne que si certaines décisions qui sont les plus pertinentes, si on les rate, on rate son avenir, ou bien on va passer à côté de l'âge adulte en réalité. Donc, un voyage à travers la jeunesse raconte une histoire d'un jeune qui s'est contraint à un moment donné de vivre l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et ce n'est pas facile ce choix, parce que nous parlons de gagner le pari de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et donc, comment il s'organise pour pouvoir y arriver ? Le livre en parle un peu.
Alors, quand vous mettez en avant certaines valeurs comme l'abstinence sexuelle, est-ce que c'est quelque chose qui est en voie de perdition ? C'est pourquoi vous en parlez. C'est quoi le constat ?
Oui, en fait, c'est vrai que la société africaine traditionnelle s'accorde à la virginité de la jeune femme et à la chasteté. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que compte tenu du soft power comme occidental, toutes ces valeurs sont en train de se perdre dans notre société, alors que l'Afrique, c'est l'Afrique des valeurs, c'est l'Afrique de la solidarité, et c'est l'Afrique de l'éducation, de la famille en réalité. Et donc, il est important quand même de revenir sur ces valeurs face à l'avancée aujourd'hui des pratiques comme l'homosexualité, de repositionner la question des valeurs africaines, et une valeur qui contribue évidemment à une société paisible. Vous savez, si la débauche sexuelle est une vertu, je ne crois pas qu'aujourd'hui l'État va s'évertuer à endiguer les grossesses précoces dans les écoles aujourd'hui. Et vous savez que si l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est une vertu, donc il faut en faire la promotion.
Et c'est très important d'en faire la promotion. Et déjà, quand on prend cette valeur, il y a au-delà même d'ailleurs de l'abstinence sexuelle, vous parlez encore aussi d'autres valeurs dans le livre, bien sûr, je présume.
Oui, en réalité, en fait, c'est... Je donne un peu le contexte. Moi, j'ai conduit pendant 20 ans l'association Jeunesse Chrétienne Engagée qui opte pour l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et donc, 20 ans après, je quitte la tête de l'association. Je dis, OK, il faut que je laisse un livre de référence. Moi-même, j'ai pratiqué l'abstinence sexuelle jusqu'à 35 ans.
Et donc, je sais de quoi
je parle. Bien sûr, je sais de quoi je parle. Et je crois que tous les auditeurs m'ont vu à mon jeune âge parler de ça à la télé, à TVT, Podium Jeunesse, RTDF. Donc, je ne suis pas nouveau pour le public. Toutes ces questions, j'ai des débats dans les églises partout, à l'école. C'est une valeur que je prends depuis longtemps.
Et finalement, qu'est-ce qu'on en gagne en tant que jeune, en étant aussi, en s'abstenant sexuellement ? Qu'est-ce qu'on en gagne ?
On gagne beaucoup. D'abord, sur le plan spirituel, on gagne en spiritualité, dans une relation profonde, fluide avec Dieu, parce que quand tu es jeune chrétien, tu n'as pas d'autre choix que de s'abstenir sexuellement jusqu'au mariage. C'est une vertu biblique. Et quand tu veux éviter les IST et les grossesses précoces, il faut s'abstenir. Ce qu'on pense croire aux gens, c'est que c'est comme si un jeune qui vit dans le copinage sexuel, c'est comme il est heureux que celui qui vit de l'abstinence sexuelle, c'est carrément erroné. Parce que lorsque vous vivez dans la débauche sexuelle, entre guillemets, ou bien vous vivez dans une vie de copinage sexuelle, vous créez une dépendance vis-à-vis de cette personne. Et quand ça devient à un niveau où vous êtes un peu accro, où vous avez une certaine objectif, ça devient très compliqué. L'abstinence sexuelle apporte beaucoup de valeur. Parce que d'abord, elle permet d'abord de pouvoir se canaliser sur l'essentiel. Parce que un jeune qui arrive à maîtriser ses pulsions sexuelles, c'est un jeune qui arrive à résister devant les autres fléaux de la jeunesse. Parce que vivre l'abstinence n'est pas chose facile. Donc, arriver à prendre les mesures pour pouvoir les vivre, c'est que la délinquance juvénile, la drogue et tout ça, il est a priori à côté de cela.
Vous développez une certaine résilience face à la vie.
Absolument. Et donc, quand vous êtes dans ça, moi j'ai fait un bac C, j'ai fait, je suis ingénieur, je sais que tous les meilleurs de leur promotion s'abstiennent presque totalement. Parce que cela donne beaucoup d'exigences pour réussir. Et voyez-vous, donc, quand vous voulez réussir, je donne un exemple, vous étudiez en première année de médecine, ou bien ici, par exemple, dans une école prépa, vous n'avez pas le temps pour gérer des sentiments avec les jeunes filles ou des garçons. Ils diront qu'ils n'ont pas le temps. J'ai eu la chance particulièrement de faire une promotion au bac C où j'ai un de mes amis direct qui est sorti très bien, mention très bien, 20 sujets en mathématiques. Bon, on est ensemble, hein. Il n'est pas aussi peut-être chrétien comme moi, je le suis. Mais il dit, cette affaire-là va lui perdre le temps. Parce que réussir à l'école demande beaucoup d'énergie, beaucoup de consécration. Ah,
et beaucoup de concentration.
Beaucoup de concentration. Mais ce que nous avons pu démontrer à travers le livre, c'est de montrer qu'il y a une relation entre cette consécration à réussir dans sa vie professionnelle et intellectuelle et l'abstinence sexuelle. Parce que vous savez que les gens qui sont stressés ont une activité sexuelle en baisse. Parce que le testostérone, c'est l'hormone qui est à la base de la sexualité. Et avoir envie sexuelle, c'est tout à fait normal parce que c'est le fonctionnement biologique à partir de l'âge de la puberté. Mais là, on s'est rendu compte que il y a l'hormone antidote de la testostérone, ce sont les hormones consécrées lorsqu'on est stressé. Et donc, ça veut dire, souvent, ceux qui sont intellectuellement bons sont pas assez bons au lit. Parce que en fait, autour d'eux, ils ont un certain nombre d'exigences et de stress.
On ne peut
et qui
pas
agit,
partout quand même.
Mais qui agit évidemment sur les cellules, qui créent les hormones qui donnent l'envie sexuelle. Ce que nous disons à travers ce livre, c'est d'amener les jeunes à relever ces défis, les défis du succès, et de faire le mieux et l'excellence. Et ça leur permet de gérer ces émotions, et au finish, ils réussissent leur vie. Mmh. Nous avons positionné la question aussi de l'homosexualité qui est en train de gangrener notre monde. Pascal, je vous dis ceci, dans le monde, dans la nature, du point de vue scientifique, ce ne sont que les signes plus et moins qui s'attirent. Ce n'est que le mâle et les femelles qui s'attirent. Ça, je parle de l'électricité. Mais lorsque, dans une société, les mâles s'attirent comme les mâles et femelles doivent s'attirer, c'est que Dieu est en danger, la société est en danger.
Dieu est en danger, dites-vous.
Dieu est en danger. Quand je dis Dieu est en danger, c'est la création, en vérité. Mmh. Parce qu'il y a des lois de la nature. Je dis, jamais, en électricité, moi j'ai fait la physique aussi, c'est le plus et le moins qui s'attirent. Mais nous sommes dans une société où les hommes s'attirent entre eux comme une femme, un homme et une femme doivent s'attirer. C'est qu'il y a un problème par rapport aux lois, aux principes de la nature. Et quand vous regardez un peu ça, c'est que nous attendons vers une perdition. Quand il dit Dieu est en danger, en réalité, s'il existe, et je crois qu'il existe, c'est que, évidemment, la créature est en danger. C'est une façon
de
parler.
Tout à
fait. Et donc, si c'est la créature en danger, il va sonner la fin de cette créature. Et donc, vous voyez un peu, ben, si ceux qui sont un peu chrétiens comprennent que dans le temps à Sodome et Gomorre, il y avait ces pratiques qui ont fait que Dieu a finalement détruit. Parce que quand vous mettez Dieu en difficulté par rapport aux principes, aux lois avec lesquelles il a créé le monde, en fait, vous mettez sa nature en difficulté.
En difficulté.
Et donc, je ramène les jeunes à éviter avec véhémence la question de l'homosexualité, parce que malheureusement, elle est déjà dans nos murs. Et donc, le livre se positionne et amène le jeune à gérer ses sentiments. Parce que parler de l'abstinence sexuelle, c'est bien. Et le constat est que dans toutes les générations et dans toutes les cultures du monde, l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est promue. C'est une valeur qui est acceptée.
D'accord.
Le problème, c'est comment vivre.
C'est l'essentiel. Oui, Eric a une question pour vous. Eric.
Pas une question, beaucoup de questions. D'accord. Parce que là.
Non, on
vais y aller très rapidement.
C'est important.
Je viens de regarder en diagonale votre bouquin. Je vois qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Hein. Vous avez beaucoup cité la Bible dans votre livre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour un athée qui regarde ce titre et a envie de lire? La deuxième question, c'est un peu faire une analyse de la situation humaine aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait l'abstinence jusqu'à 35 ans. Alors, je dis, excusez-moi, mais vous avez un enfant ou des enfants aujourd'hui.
Je suis marié, je suis père de deux enfants.
Alors, vous voyez un peu aujourd'hui la moyenne d'âge pour mourir. Hein, je dis, c'est 70 ans. Mais si à 35 ans, vous faites un enfant, ça veut dire que déjà à 30, si vous mourrez hein, entre 70 et 80 ans, c'est que vous laissez des enfants orphelins déjà à 35 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi moralement touchant pour ces enfants? Alors,
je vais prendre les deux.
Ma dernière question, peut-être.
Oui, rapidement, Eric.
Je lis quelque part dans votre livre un titre qui dit « Je t'aime, la dernière étape de la fornication ».
Avant la fornication.
Avant la fornication. Oui. Alors, « Je t'aime aujourd'hui », ça s'est dit même à 10 ans, « Je t'aime maman, je t'aime papa ». Et vous transposez cela déjà dans la vie de couple.
Oui, en fait, je vais répondre rapidement.
D'accord, rapidement.
La première question, en réalité, c'est quand vous parlez de verset biblique, au fond, parce que quand tu veux vivre, entreprendre un chemin, il faut demander ceux qui l'ont déjà pratiqué, ceux qui l'ont vécu. Le lui s'est posé cette question. Je vais vivre l'accident, c'est sûr, c'est de regarder autour de moi qui le pratique. Mais le constat est que c'est beaucoup plus ceux qui sont religieux, chrétiens, et d'une certaine obédience qui vivent. Parce que c'est une livre d'analyse, c'est un roman d'analyse psychologique. Donc, on pose le problème de façon claire pour comprendre quels sont les versets, quels sont les éléments qui les motivent à vivre cet accident sexuel. Et parce que le livre explique, en fait, ces tendances en réalité. Donc, au fond, c'est pas une prise de position, mais au fond, mais pour l'auteur, l'auteur principal, Misa, qui est l'auteur du livre, il est arrivé que le défi de l'accident sexuel s'est imposé aussi à lui parce qu'il est chrétien. Voilà. Et donc, c'est de comprendre un peu, d'aller questionner mais Dieu. Pourquoi même cette question? Parce que vivre l'accident sexuel n'est pas facile. D'abord, ça, c'est la première question. La deuxième question, en fait, je ne suis pas en train d'encourager les jeunes à se marier jusqu'à 35 ans comme moi. Parce que si je me suis marié à 35 ans, ce n'était pas à volonté. Parce que je crois que l'objectif, c'est de s'abstenir jusqu'au mariage. Si vous arrivez à vous marier à 22 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, l'objectif, c'est de s'abstenir. Donc, maintenant, si... il arrive que pour des raisons personnelles, des questions de choix, des questions de trucs, bon, finalement, le QCE a les choix à 35 ans, bon, l'essentiel, c'est de l'assumer. Donc, je ne force pas, franchement, je ne dis pas 35 ans se marier.
Non, comme vous avez donné votre exemple.
Oui, parce que moi, je le dis par rapport à mon vécu.
Ça va faire réagir.
Parce que le livre est un peu aussi comme un essai. C'est aussi un roman d'analyse et ainsi de suite. Donc, c'est un spin-off, c'est sûr, je le connais parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes pour mon parcours. La dernière question, c'est par rapport je t'aime. En réalité, pour que deux jeunes puissent commencer par une relation sexuelle, le mot je t'aime doit passer. Mais ce qu'on dit aux jeunes, c'est que vous pouvez avoir des attirances l'un et l'autre, mais évitez de dire je t'aime parce que je t'aime engage une relation en deux personnes. Et là, l'énergie devient très forte. Et quand c'est comme ça, je ne vois pas deux personnes qui font l'amour sans se dire je t'aime. C'est pourquoi on lui dit, ok, si vous avez des sentiments d'amour l'un avec l'autre, pour garder votre défi d'abstinence sexuelle et refuser d'exprimer l'amour directement entre vous. Parce que ça vous enroule dans autre chose que vous ne pouvez pas peut-être maîtriser. Donc, le je t'aime...
En sachant que le mariage est quelque part une chance aussi. Hein?
Oui, non, absolument, parce que dans le mariage, dans les relations formelles, donc je t'aime, voilà, ça c'est... C'est-à-dire, je ne pense pas que comme Eric Coudeau, quand il veut faire partager l'intimité avec sa femme, il ne dit pas je t'aime. C'est normal, mais c'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est la question de la gestion du sentiment. Parce qu'il faut éviter, si tu veux vivre l'abstinence sexuelle, de dire très tôt, je t'aime, quand tu n'es pas encore prêt pour s'engager dans une relation. Voilà un peu la question. J'espère que j'ai su convaincre.
D'accord, c'est l'essentiel. Eric. Alors, Eric, je pense que vous êtes déjà convaincu hein, par rapport à ce qu'il a dit. Oui, Adam, vous voulez poser une question?
Non, mais j'aimerais en fait réagir par rapport à l'idéal que l'on aimerait véritablement partager en ce qui concerne donc l'abstinence, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'au-delà hein, du cadre confessionnel qui également promeut ces valeurs-là, nous avons également l'école également qui promeut ces valeurs. Mais à défaut, il faudrait quand même avoir des palliatifs qui permettent à ce jeune-là qui n'arriverait pas à avoir ce dépassement de soi. Parce que quelque part, c'est un dépassement de soi qui fait qu'on a des jeunes à un âge avancé qui arrivent véritablement donc à combler ou à satisfaire cet idéal-là, comme je l'ai dit. Mais au-delà de ça, moi, ce que moi j'ai toujours voulu, en réalité, nous constatons, c'est vrai, l'abstinence, bon, lorsque vous prenez un peu ces deux cas de figure, vous constaterez que lorsque nous prenons le cas scolaire, vous constaterez qu'à un moment donné, lorsque l'enfant évolue, on a tendance à apprécier en réalité cette abstinence-là. Mais lorsque nous tombons dans l'autre revers, où pratiquement, vous voyez, aujourd'hui, nous avons surtout, lorsque nous prenons nos jeunes dames, hein, qui aujourd'hui se retrouvent pratiquement à ne pas être en couple, compte tenu de certaines valeurs qui n'ont pas suivi en réalité cette abstinence-là, qui font qu'en réalité, ils n'arrivent pas à entretenir, en tout cas, cette vie de couple et rester véritablement en couple. Donc, on a tendance également à tomber dans d'autres revers. Et malheureusement, on constate qu'en réalité, cette vie-là qui a permis à ce qu'on puisse évoluer devient pratiquement, n'est plus appréciée quand on rentre dans l'autre revers. Donc, moi, j'aimerais véritablement que, dans les deux cas de figure, qu'on puisse trouver le juste milieu.
Voilà, l'équilibre.
Et, voilà, et faire en sorte que, après avoir réussi sa vie éducative, comme il le dit, qu'on ne tombe pas de l'autre côté où pratiquement on se retrouve seul, qui devient également pratiquement une raillerie.
D'accord, c'est compris.
Comme Adam a dit, c'est pas totalement vrai. Totalement vrai, parce que, au fond, quand on dit parce que je pratique l'abstinence sexuelle, parce que les jeunes se le disent, et que je ne vais pas être bon au lit ou bien entretenir la relation, mais au fond, c'est parce qu'on oublie même l'essence. Parce qu'une relation de main, c'est une relation d'amitié. Et dans une relation d'amitié, on se comprend et on s'entraide, en fait. Donc, personne n'a été à l'école de la sexualité. Ça commence toujours. Et ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes par rapport à ça, parce que quand vous avez un copain, par exemple, et que vous n'êtes pas dans un foyer légal, se peut que vous avez une fois par semaine ou deux fois dans le mois pour avoir rencontré la copine, fait l'acte sexuel. Mais lorsque vous êtes marié, c'est conseillé que vous ayez deux ou trois relations sexuelles par semaine. Imaginez quand vous, dans un an, vous allez rattraper déjà tout ce que quelqu'un aurait pu faire dans ces pagailles, entre guillemets. Quand j'appelle pagailles, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est plus dire qu'au fond, dans la réalité, le problème, il faut pas le voir là-bas. Si le problème se pose, c'est pas parce que la personne s'est abstenue. Parce que dans une relation d'amour, c'est une relation de partenariat et de compréhension, de communication. Et je sais pas si vous voyez. Voilà. Quand vous arrivez et que, je donne l'exemple, le premier jour, tu ne sais pas comment entretenir, mais la femme sait que voilà ton passé. Et peut-être elle autre. Ou si le monsieur sait que la femme a un passé, il l'aide parce que c'est une relation d'amour. Mais là, si vous deux vous arrivez, vous allez vous bidouer, après vous allez prendre le vélo, c'est comme le vélo. Donc pour moi, au fond, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est qu'est-ce que nous voulons faire ensemble.
D'accord.
Et comment nous voulons le faire.
D'accord, merci beaucoup Sam pour votre intervention. Je rappelle que vous avez écrit l'ouvrage Un voyage à travers la jeunesse et vous mettez en quelque sorte en promotion un certain nombre de valeurs que nous devons cultiver, surtout la jeunesse doit cultiver et adopter et pour mieux vivre. Merci beaucoup d'être passé alors dans cette émission. Et, je rappelle qu'on peut facilement retrouver cet ouvrage partout, je sais pas trop.
Oui, en fait. Si vous l'avez le livre, vous pouvez le trouver au niveau de la librairie Bon Pasteur.
D'accord.
Au niveau de la poste à cimo.tg, vous pouvez appeler le numéro 90 26 61 11. 90 26 61 11. Le livre est à 5000. Et avec la poste, vous pouvez avoir le livre dans tout le temps du territoire du Togo. D'accord. Le livre est à 5000. Et je pense que c'est le livre qu'il faut donner aux jeunes ou adolescents pendant cette période de vacances.
Qu'il faut offrir.
Voilà. Parce que c'est important de construire le vivre ensemble au travers de ces valeurs. Parce qu'aucun homme n'aurait accepté que sa femme soit la deuxième, les S de quelqu'un d'autre. Donc, si ces valeurs sont acceptées, faisons la promotion et c'est ce que le livre est en train de faire.
Sam Kodovi, Adam Bounou, merci d'être passé. Je pense que vous pouvez rester avec nous puisque vous êtes aussi acteur de la société civile. Je rappelle que vous êtes aussi secrétaire général alors du Conseil des cadres chrétiens évangéliques engagés et vous intervenez aussi sur beaucoup de sujets de la société, bien sûr. Je ne sais pas si peut-être vous êtes intéressé par des sujets dont nous allons débattre ici tout de suite. Vous pouvez également intervenir. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, à côté de vous, je reçois un autre invité. C'est Nîmes Atakbama. Nîmes, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditrices et auditeurs de la radio Canal FM.
Voilà, Nîmes, vous organisez, là je rappelle que vous êtes, vous faites partie alors du parti, si la tautologie est permise, du parti des Togolais, et vous organisez déjà avec le mouvement Touche pas à ma constitution, un événement demain, et demain mercredi bien sûr, et c'est à Blodaromi. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Voilà. C'est bien de le préciser, effectivement, c'est pas le Parti des Togolais qui l'organise,
voilà.
C'est le Front Touche pas à ma constitution, qui est né, vous le savez, de la forfaiture qui a eu lieu, de ce coup d'état constitutionnel qu'on a eu au Togo, et donc c'est un mouvement en construction, un mouvement qui se dresse et qui veut organiser le peuple togolais pour... ramener la constitution que le peuple a votée. Et demain, effectivement, nous faisons une conférence. C'est une conférence publique, ce n'est pas une marche, ce n'est pas un meeting, c'est une conférence publique et c'est sur les enjeux de la constitution. Et demain, c'est à 14h.
Les enjeux de la nouvelle constitution, vous voulez dire?
Non. D'abord, commençons par expliquer pourquoi c'est important ce qu'on appelle en général une constitution. Quel est le lien entre la Constitution et ma vie personnelle? Quel est le lien entre la Constitution d'un pays et les inondations à répétition qu'on n'arrive pas à gérer au Togo? Quel est le lien entre une Constitution et les problèmes au CHU de l'Omé-Tokouin qu'on a, on n'arrive pas à régler, etc., etc.? Quel est le lien entre une Constitution et la violation des droits des citoyens et les journalistes qu'on met en prison, etc.? Donc, il faut savoir que, comme on dit, la Constitution, c'est la mère de toutes les lois.
C'est la loi fondamentale.
C'est la loi fondamentale. Ça veut dire qu'en tant que telle, la Constitution régit la vie de tout le monde et régit notre avenir. C'est-à-dire que, non seulement notre avenir, mais l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et donc, il faut à tout prix comprendre ce que c'est. C'est pour ça que, dans un premier temps, nous allons discuter avec un universitaire sur ce qu'est la Constitution. Mais ce ne sera pas quelque chose pour des amphis ou bien c'est pas un truc universitaire, même si c'est un universitaire qui va commencer, mais c'est quelque chose vraiment terre à terre. Ce n'est pas des définitions de dictionnaires de philosophes qu'on va venir,
c'est pas des définitions basique, académiques, c'est pas
voilà.
Basique,
c'est des choses qui nous concernent. Pourquoi la constitution nous concerne? Parce que les gens peuvent penser, on dit constitution, quelqu'un, les gens, un groupe d'amis s'est caché pour refaire une constitution, pour faire un coup d'état constitutionnel, est-ce que ça me concerne, moi je veux aller au marché, etc. Mais on va lui dire pourquoi cette constitution là va avoir des répercussions sur ce qu'il fait au marché. Donc c'est ça globalement. Et ensuite on va donner les conséquences que cette nouvelle constitution, justement, par rapport à votre question, pour répondre précisément à votre question, les conséquences que cette nouvelle constitution va avoir sur notre vie de tous les jours, la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants. Et donc, c'est clair que, et ça, c'est des politiques qui vont l'expliquer. Et maintenant, après, nous allons expliquer pourquoi, malgré leur promulgation, la lutte n'est pas terminée. Pourquoi nous devons toujours nous dresser et surtout, nous voulons donner à tous les Togolais. Donc, j'invite tous les Togolais demain à 14h à Blodaromi. D'accord? C'est très important. Le matin, vous allez au marché, vous faites vos courses, etc. Mais à 14h, on se retrouve à Blodaromi.
Tous les Togolais peuvent
remplir. Ce qui peut venir.
J'invite quand même tout le monde, on va remplir Blodaromi. Et même si on veut remplir tout le Togo et passer le message, on va le faire. Mais ce qui est important, c'est que il y a quelque chose, un outil, une arme que chacun d'entre nous a. Chaque Togolais a une âme, chaque Togolais a une âme, mais souvent on ne connaît pas la notice. On ne sait pas comment l'utiliser et nous voulons expliquer ça. C'est le pouvoir du peuple, le pouvoir populaire. Souvent, on le dit, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et demain, on va l'expliquer.
Oui, mais Nîmes, alors, pour cette activité, l'objectif, c'est quoi? Oui, expliquer tout aux concitoyens et tout. Absolument. Mais après tout, c'est pourquoi?
Mais justement, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un mouvement en construction, un mouvement qui va continuer, un mouvement qui veut mobiliser l'ensemble du peuple pour un changement positif pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir ce que nous vivons. Et cette nouvelle constitution, ce que le complot qui est fait contre le peuple togolais. Donc, l'objectif, il est là devant, mais nous devons nous donner les armes. Nous devons travailler à savoir utiliser les armes que nous avons à notre disposition pour cette lutte pacifique.
Oui, si je pose la question, c'est pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez qu'on retire cette constitution, puisque la promulgation a été déjà faite, et aujourd'hui, allez, l'Assemblée nationale est mise en place, et il y a la première session, même d'ailleurs ordinaire, vient d'être bouclée, et ça veut dire tout simplement que la nouvelle constitution est en marche.
Vous savez, quand on prend l'histoire, d'accord, la colonisation au Togo a duré combien d'années? Si nos grands parents, nos grands-pères, nos grandes-mères avaient dit, bon, la colonisation a eu lieu, et le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, on n'aurait pas l'indépendance du drapeau que nous avons aujourd'hui. L'esclavage a duré combien? 4 siècles. Si nos grands-mères, nos grands-pères avaient dit, non, maintenant c'est bon, le vin est tiré, il faut le boire, on serait toujours dans les fers. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent faire leur promulgation, ils peuvent faire entre copains ce qu'ils veulent, mais nous devons être déterminés. Nous savons que ce n'est pas fini.
D'accord.
On a connu le parti unique, le parti État aujourd'hui, mais des gens se sont constitués en parti politique clandestin et ils ont lutté jusqu'au 5 octobre 1990. Si ces aînés-là avaient dit non, on est en dictature, le vin tiré, il faut le boire. On serait toujours dans le parti unique, dans le parti État. Donc, j'invite tous les Togolais à se dire que c'est maintenant que la lutte commence. C'est maintenant que nous devons redoubler d'ardeur et de vigilance pour avoir ce que nous voulons, à savoir, on ne peut pas vaincre un peuple. Ce que je dis aux Togolais, c'est que nous devons tenir aussi longtemps qu'eux et nous devons tenir un jour plus que et là nous allons gagner.
D'accord, merci beaucoup Nima Takbama d'être passé dans cette émission. Le rendez-vous, oui, le rendez-vous c'est pris pour demain.
Demain à 14h à Brodahome, vous êtes tous invités. Franchement, on va discuter beaucoup demain et nous avons besoin de la présence de chaque Togolaise et de chaque Togolais.
D'accord, merci beaucoup Nima Takbama d'être passé alors dans cette émission. Chers confrères, voilà, nous allons aborder notre premier sujet hein, pour le compte de cette émission. Je voudrais qu'on parle alors des examens puisqu'il y a ces examens qui sont pratiquement passés. Les résultats même d'ailleurs commencent par tomber. Nous avons eu les résultat même d'ailleurs du bac 1 avec pratiquement 71, et quelques pourcents. Et après tout, c'est le BPC qui a été proclamé. Et BPC cette année, on comprend tout simplement qu'il y a, enfin, les résultats donnent plutôt 44,9% hein, pour les résultats sur le plan national contre 89% ou plus de 89% l'année dernière, bien sûr. Alors, Adam, quand vous avez eu déjà ce dégringolage, j'allais dire, par rapport au BPC, hein, aux résultats alors de BPC, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question quand même qu'on aurait posée.
Oui, naturellement, vous l'avez dit, lorsqu'on prend, on fait, en tout cas, on remonte l'histoire, que nous comparons un peu les résultats. Par exemple, nous prenons la région centrale qui occupait la première place l'année dernière avec 98,56%. Et aujourd'hui, la dernière des régions avec 21,48%, etc. Hein. Et lorsque vous prenez le Grand Lomé, qui était pratiquement le dernier en 2023, se retrouve aujourd'hui le premier avec 65,85%. L'on s'est posé cette question, moi, lorsque nous, c'est les pourcentages en réalité qui nous préoccupent. Et naturellement, hier, il n'y a pas plus qu'hier que je discutais avec un enseignant qui me disait, lorsque vous prenez, que cette année, c'était bien de le faire ainsi dans la mesure où vous prenez les enfants que vous formez, lorsque ces enfants-là n'ont pas le niveau nécessaire. Et qu'ils arrivent, par exemple, au lycée, vous convenez surtout avec moi qu'aujourd'hui, la tendance est qu'on veut davantage d'élèves scientifiques, etc., qui réussissent mieux les matières scientifiques, et qu'arriver au lycée, et que pratiquement, on prenait, puisque c'est ce qui se suscirait entre temps où les gens se retrouvaient avec 9, mais qu'on rachetait pratiquement, compte tenu du fait que, quelque part, si même nous n'avons pas toutes les motivations pour réellement donc justifier cette approche-là. Mais on s'est dit qu'en réalité, lorsque vous prenez la disparité entre l'effectif, lorsque nous prenons par exemple les agglomérations reculées, contrairement à ce qu'on te dit dans le Grand Lomé ou dans les grandes villes de région, etc., où nous avons des salles bombées, vous allez dans les agglomérations reculées, vous constaterez véritablement que l'effectif aussi n'est pas ça. Quand bien même qu'on a tendance à pouvoir dire que vraiment la gente féminine de justice a monté. Donc moi, je pense que quelque part, il faudrait quand même qu'on ait les vrais résultats parce qu'aujourd'hui, les efforts consentis par le ministère en ce qui concerne le professionnalisme, en ce qui concerne les UE, etc., il faudrait quand même qu'on ressorte les vrais résultats et faire en sorte que ce rachat de certains élèves qui permettait en réalité d'améliorer les résultats puissent donc, et qui a des impacts surtout lorsqu'on arrive au lycée, qu'on puisse quand même se départir de cet aspect-là pour qu'on puisse réellement voir les vrais résultats sortis et l'effort fourni par les élèves.
D'accord. Eric, comment on peut expliquer ces résultats ou ce pourcentage déjà minime parce que nous parlons alors de 44% cette année contre 89% l'année dernière?
Alors, je veux dire un truc basique. Quand on va à un examen, on échoue, c'est qu'on n'a pas bien étudié. Alors, si les enfants ont eu ce résultat-là, il faudrait chercher les réponses à travers les enfants eux-mêmes et les enseignants. Pour voir si les enseignants ont été à la hauteur de leur job, est-ce que les enseignants ont fini les programmes en cours? Est-ce que les enseignants ont travaillé dans de bonnes conditions aussi? Parce que là, vous ne pouvez pas mener cette critique-là sans se demander quelles étaient les conditions de travail de ces enseignants. Parce que des gens qui ont en charge l'éducation ou l'enseignement des enfants qui passent un examen, c'est qu'ils doivent être forcément concentrés, motivés et à la fin, ils doivent être à la hauteur de l'enseignement qu'ils transmettent aux enfants. Après, on peut aussi regarder les épreuves qui ont été données par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière, puisque l'année dernière c'était 89% et cette année 44%. Est-ce que cela veut dire que l'année dernière on avait cherché à avoir un résultat positif et les épreuves étaient vraiment accessibles à tout le monde, ou est-ce que cette année on a voulu réellement jauger le niveau des enfants, on a mis des épreuves qui permettent aux enfants de réfléchir et de réagir par rapport à ce qu'ils ont eu pendant toute l'année. Je ne sais pas comment on peut expliquer cette situation, mais il y a beaucoup d'hypothèses. Toutefois, je pense que Adam disait quelque chose tout à l'heure par rapport aux vrais résultats. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Est-ce qu'il y a des faux résultats?
Non, je disais non. Pas le passé. On essayait de racheter en disant voilà, les gens n'ont pas eu et on ne prend pas en neuf. Donc, je dis l'approche par compétence instaurée par le ministère qui fait que les enseignants ou les encadreurs ont véritablement donc la compétence. Il faudrait quand même que cette compétence-là puisse se refléter et qu'on ait les vrais résultats, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus racheter. C'est ce que je disais. Je ne disais pas un résultat en faux. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même, si c'est 10, qu'on ait les 10, qu'on ne prenne plus 9. Et ceci qui
d'accord,
peut,
moi, je peux,
c'est
moi,
parmi
je
peux, vos hypothèses, oui. Qui peut réellement donner.
D'accord, c'est compris.
Voilà. Moi, Eric, je peux encore dire. Justin, quand il a passé le BPC, les 44% là même, on n'était pas, tu n'étais pas, les gens, enfin, on n'avait pas ce résultat là.
Mais il y a de cela très longtemps.
Il y a de cela très longtemps, c'était moins que ça. Ouais. Et donc, personnellement, je dis, c'est que on a dosé hein, et les épreuves pour véritablement voir si les enfants sont à niveau.
D'accord.
On dose les épreuves, quel que soit le dosage, de toutes les façons, sans ce qu'on enseigne aux enfants, qu'on les pose comme question, qu'on dose ou pas,
puisque la question qui doit être posée, hein, c'est où l'épreuve qui est donnée, c'est sûrement contenu à l'ordre des programmes.
Les programmes donnés, donc il n'y a pas d'épreuve dosée, non dosée.
Juste, ça fait longtemps qu'on n'a plus retrouvé de tels résultats, puisque quand on parle à l'ordre du BPC à un moment donné, c'est des résultats quand même qui sont très encourageants, mais cette fois-ci, 44%, ce n'est pas encourageant.
Oui, c'est là même où se situe la problématique. Là où a chuté tout à l'heure, et que c'est là où je voudrais en venir, parce qu'à notre époque, le pourcentage, le taux de pourcentage, des fois, c'est moins de 30 ans, moins de 30%.
30%.
Et on se posait énormément de questions, parce que la mathématique, coefficient 3, sciences physiques, quand c'est demandé, il faut aller réfléchir mille fois avant d'avoir 9. Tout et tout, c'est comme si on a démontré par A plus B qu'il faut être tellement super intelligent pour passer le BPC. Et par la suite, on a vu ce que ça a donné avec le système, l'approche qui est là aujourd'hui. Maintenant, c'est le constat établi qu'à la fin de cette année, les résultats du BPC sont en dessous de ce qu'on a eu à connaître dans les dernières périodes, dans les dernières années.
L'année dernière, 89%.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur plusieurs dimensions, sur un certain nombre de critères et qui seraient la base, et notamment les conditions d'études des élèves, les enseignants, comment ça s'est passé, quelles sont les conditions qui ont amené à proposer tel sujet. Maintenant, s'est passé dans quelles conditions, les élèves ont travaillé, qu'est-ce qui s'est passé dans les préparatifs, les parents jouaient quel rôle, tout et tout. Et bon, avec tout ce que nous avons comme les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que véritablement les apprenants ont eu à travailler sur des questions qui sont des questions réelles? Mais si on n'arrive pas à trouver de réponse, je pense que c'est une problématique qui est posée et chacun dans son niveau puisse quand même s'interroger, notamment dans les maisons respectives, et voir dans quelle mesure on peut accompagner les enfants. Et surtout, est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les enseignants aussi ont démissionné tout petit peu, parce qu'on estime que voilà, il y a une condition qui est là, il faut pas punir, il faut pas taper trop du poing sur la table. Ça fait qu'il y a un laisser-aller même dans les établissements. Les élèves qui font la classe de troisième, qui ont un examen à passer, ne se soucient pas de ces examens-là. Dans les dernières semaines, moi, j'ai vu les élèves de troisième, garçons comme filles, sortis des écoles. Donc, ils s'embrassent. On se pose la question si réellement ils savent ce qu'ils les attendent devant. C'est là où je rejoins tout à fait l'écrivain lorsqu'il parlait tout à l'heure de l'abstinence. Donc, c'est une question qui est réelle dans la société à laquelle on doit quand même en réfléchir et trouver des solutions.
Voilà. Et Jean-Baptiste, c'est vrai que tel que le sujet est évoqué, hein, l'aspect est évoqué maintenant par Justin, il y a d'aucuns également qui l'évoquent, hein, qui disent que aujourd'hui, c'est comme si les enfants se donnent trop à la distraction avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes du même avis?
Je crois que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui inondent le monde, et aussi avec le désir de cette nouvelle génération d'enfants qui est vraiment encline à être à la page, si on peut le dire ainsi, avec surtout la génération des androïdes, ça fait que aujourd'hui il n'y a pas un contrôle aussi rigoureux que cela l'était à notre temps vis-à-vis des apprenants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils passent plus leur temps avec leurs Android pour ceux qui en ont. Ce qui fait que l'attention qui devait être portée aux études, on n'a plus cette même attention vis-à-vis des cours qui sont dispensés dans les écoles. Mais outre cela, j'allais dire, c'est que d'abord, le système éducatif avec la méthode APC, est-ce que réellement les enseignants maîtrisent cette nouvelle méthode d'enseignement? La question reste posée.
Et il y a des recyclages souvent faits.
Il y a des recyclages, mais est-ce que c'est une approche maintenant que les enseignants maîtrisent avant de dispenser cela aux apprenants? La question reste posée. Et les apprenants aussi aujourd'hui, l'année passée précisément, avec cette méthode, on a eu 89% de taux de réussite et que cette année, c'est 44%. Ça veut dire que la moitié du résultat obtenu l'année dernière. Donc, quand nous analysons, c'est qu'il y a eu vraiment
un incident très sérieux vis-à-vis du taux de réussite. On ne peut pas passer de 89, revenir à 44% de réussite.
Tout à fait.
Il y a vraiment à s'interroger. Et si on doit quand même faire le tour des mobiles de ce qui a contribué à cela, je crois que la façon dont le ministère gère les enseignants aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'utilisation des bâtons, je crois que ça aussi, c'est un aspect important qu'il faut évoquer parce que si vous êtes enseignant, vous saurez ce que sont aujourd'hui les élèves parce qu'ils sont vraiment têtus. Ils sont têtus et que leur maîtrise pour pouvoir dispenser les cours, ce n'est pas facile pour les enseignants de les maîtriser en salle avant de dispenser les cours.
Et il faudrait que les parents maîtrisent même leurs enfants aussi à la maison.
Avant
que ça n'aille à l'école.
Les effectifs, il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas occulter, et surtout dans les établissements publics où on a des effectifs très pléthoriques, où les élèves se retrouvent parfois à 3, à 4 dans un banc. Ça, et avec des effectifs qui vont jusqu'à 100, 150, je crois que ce sont pas des conditions optimales d'encadrement des enfants. Sinon, on assiste plutôt à une sensibilisation au lieu de former en bonne et due forme les enfants.
D'accord. Oui. Et Sam, en tant qu'acteur de la société civile, quand on prend ce résultat, 44%, est-ce que, parents que nous sommes, nous devons être satisfaits?
Oui, merci Pascal. Moi, je suis enseignant. Je donne le cours de la fiscalité de l'économie numérique à l'Institut de formation de l'OTR. En tant qu'enseignant, quand je regarde un peu le résultat, parce que le pourcentage est presque la moitié, ouais, c'est de regarder. Parce que ces dernières années, on a vu que nos petits frères ont souvent des moyennes qui dépassent parfois 300, c'est-à-dire, c'est-à-dire parfois les 19, quelque chose pour cent. C'est de regarder un peu pour voir. Est-ce qu'on a encore ces débordements?
Mais on a eu plus de 20 sur 20.
Voilà, parce que tu sais que c'est
plus de 20.
Mais il y a des...
Il y a des gens qui ont passé 20. Mais en tant que... Là, je parle en tant qu'enseignant. Je crois que le principal problème, parce qu'on n'a pas eu une année trop mouvementée au Togo. Tout est stable, quoi. Donc, la seule chose, c'est l'épreuve. Je crois que c'est l'épreuve qui a été un peu plus corsée. Mais je pense que l'épreuve, c'est d'interroger les jeunes, les acteurs. Je crois que l'épreuve, peut-être cette année, a pris une dimension peut-être auquel les enfants ne sont pas attendus. Je crois que c'est, à mon avis, c'est l'explication. Parce que, à part ça, je crois que les autres éléments sont statiques, en fait.
Eric.
Jean-Baptiste
parlait de la compétence des professeurs. Je dis, l'APC, on l'a commencé il y a des années. Et donc, tu disais effectivement qu'il y a des recyclages et tout ça. Je ne doute nullement de la compétence des professeurs, des enseignants.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Oui, mais maintenant, c'est du côté de l'apprenant que j'ai un problème. Le problème, beaucoup l'ont évoqué, est beaucoup trop d'amusement, beaucoup manque de concentration. Et Justin a dit un truc qui est visible aujourd'hui. Les enfants qui sortent de l'école, ils ne se tiennent pas la taille et tout ça. Oui, on rejoint quand même M. Samadambounou par rapport à l'abstinence. Mais on ne dit pas tout de suite que les enfants qui se tiennent, c'est directement dans le lit. Néanmoins, avoir cette facilité-là aujourd'hui, ne pas craindre les aînés. Parce que nous, en notre temps, tu ne peux même pas toucher une fille dans la rue en voyant un grand frère arriver. Parce que tout de suite, on va te corriger. Mais c'est quoi ces enfants-là dans la rue qui... Oui, il y a aussi un peu la question de moralité dans cette histoire. Mais... Et je veux faire un petit parallèle avec le probatoire. Au probatoire, on a quoi? 71% au Togo?
Tout à fait.
Alors que nous avions mené des discussions la dernière fois ici, et on se disait même que les gens n'arrivaient plus à franchir l'étape de bac 1. parce que le baccalauréat, le probatoire est très difficile et ça envoyait certains même enfin, à la perdition. Les gens n'arrivent plus à aller à l'école, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils échouent trop au probatoire. Aujourd'hui, on a 11%. Ceux qui ont réussi là, est-ce que ce sont des extraterrestres? Je ne crois pas. Et ce que je voudrais dire à travers ceci, c'est que l'épreuve qu'on donnait, hein, qu'on mettait en compétition, hein, et, enfin, avant, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu une... comment dire...
un bémol.
Oui, c'est un peu fragile, quoi, à mon avis. Et donc, ce qui s'est passé avec le BPC aujourd'hui doit nous faire dire que les enfants qui rentrent déjà en sixième, on doit commencer déjà par les préparer pour le BPC.
Ok, ok, merci beaucoup.
Et Eric, on disait ici, je disais que le blanc, chez qui on a appris à statuer sur les examens, aujourd'hui ne fait plus de probatoire, mais fait le prépa bac ou le bac anticipé. Les gens disaient ici que ce n'est pas un examen, que c'est une évaluation, et je les traite en faux, parce que il faut toujours préparer pour un examen.
D'accord, merci Eric, c'est dit, et je pense que les gens vous ont compris. Alors, nous allons aborder un autre sujet, et c'est abordant le sujet politique. Maintenant, nous savons que le vendredi dernier, l'Assemblée nationale a clôturé sa première session ordinaire pour le compte à l'ordre de cette année 2024, et nous avons écouté même d'ailleurs le discours du président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo Adeyé. Adam, vous avez écouté ce discours, bien sûr, et d'aucuns parlent même d'ailleurs d'un président de l'Assemblée nationale très serein et qui a prononcé même un discours avec, en interpellant même d'ailleurs surtout ses collègues députés à prendre des mesures nécessaires pour arriver à voter des lois qui doivent aller dans le sens alors surtout des conditions alors de vie ou de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Finalement, on dirait tout simplement que Kodjo Adeyé a bien compris même cette mission à lui confier.
Oui, vous savez, on ne cessera de le dire. Je pense que lors de mon dernier passage ici, le sujet s'était posé, où nous avons vanté ou pratiquement revenu sur, en tout cas, certaines valeurs que l'on prônait lorsque vous prenez, en tout cas, tous les pots de responsabilité qu'il a eu donc à occuper. C'est quelqu'un qui a le sens aigu un sens aigu de l'intérêt général. De l'intérêt général, je pense que c'est ce sens aigu qu'il est en train de transposer, en tout cas dans ses nouvelles fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons titré lorsqu'il dit « On doit légiférer avec un profond sens du devoir ». Quelque part, je pense que avec, en tout cas, lorsque vous prenez tout ce qui s'est dit même avec la législature dernière, et nous avons vu ce que ça a donné. Et cette législature, il a eu véritablement donc à planter le décor en interpellant chaque acteur à ce qui concerne dans ses droits. Donc, vous convenez avec moi que c'est une législature qui ne serait pas du tout repos, où le sens de l'intérêt général serait la chose la mieux partagée. Et je pense que lorsque vous prenez ce discours-là, c'est ce qui a été normal dit, si nous le résumons, caricaturé, vous convenez avec moi que c'est quelqu'un qui veut véritablement transposer ces valeurs-là qu'il a eu donc à imprimer devant, en tout cas, à tous les postes de responsabilité qu'il a eu donc à occuper et à interpeller dans ses amis, en tout cas députés, à pouvoir donc faire prévaloir ces valeurs-là pour l'intérêt général et l'intérêt de la population.
D'accord. Jean-Baptiste, déjà, en écoutant ce discours du président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez aussi l'impression que quelque chose va changer?
Bon, j'en doute, parce que, vous savez, nous sommes dans un système qui a des racines vieilles de près de 60 ans. Et ce ne sont pas les hommes qui viennent changer. Parce qu'il y a eu des technocrates qui ont été cooptés de l'extérieur et même de l'intérieur, qu'on avait estimé changer le cours des choses au Togo dans un laps de temps. Mais les gens ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou des mandatures entières de 5 ans dépassés, mais on n'a pas vu des changements annoncés au départ de leur mission. les preuves sont là, palpables. Je ne vais pas donner, bon, peut-être le cas de Ngbo, qui était un Nidien qui était venu. Il a promis changer le cours des choses dans 6 mois. Il a fait pratiquement 4 ans. Il est parti sur la pointe des pieds. Et tout récemment, en 2020, comment l'appelle, Madame Victoire Tomega Domegbe, qui était à la tête du gouvernement, en prenant la tête du gouvernement et dans son discours de déclaration de politique générale, elle avait dit qu'elle allait gouverner autrement le Togo. Mais aujourd'hui, c'est sous son époque que les difficultés sociales, économiques ont connu une croissance exponentielle.
Mais ces difficultés ne sont pas particulières au Togo.
Mais quand nous avons un pays a des ressources pour pouvoir remonter ces difficultés, ce pays-là ne peut pas se comparer à d'autres pays qui n'ont pas de ressources que nous avons. Donc c'est pour répondre à ta question que... Monsieur Adéjé, nous n'avons rien contre lui, mais ses promesses, nous attendons des réalisations parce que aujourd'hui, je l'ai dit au début, c'est un système. Il hérite d'un système et il n'aura pas les coudées franches pour pouvoir s'assumer si même il a une réelle volonté de changer le cours des choses. Ce n'est pas évident. Et moi, je l'attends particulièrement sur un certain nombre de sujets, notamment. Les interpellations, on en a parlé plusieurs fois, et les interpellations au niveau des différents ministères, lui-même, il fut ministre, on connaît son passé avec cette histoire de COVID, comment l'appelle-t-on, de gestion des fonds de COVID, c'est là. Et le Togo, on a beaucoup de contrats miniers qui ne sont pas à l'avantage des populations togolaises. Nous l'attendons particulièrement au changement de ces contrats miniers en faveur des Togolais.
D'accord, merci. Et Eric, est-ce que aussi, vous êtes aussi pessimiste que mon frère ou mon cher confrère Jean-Baptiste, que pratiquement rien ne changera?
Non, je ne suis pas pessimiste du tout. Moi, je pense plutôt qu'il faut prendre les gens au mot. Et surtout, se dire que nous tous, nous battons pour le meilleur de nos concitoyens, de nous tous. Hein. Et je crois que c'est vrai, Adéjé, il a eu un parcours quand même. Hein. Il maîtrise un peu les rouages administratifs et politiques. Et du coup, je pense qu'il peut quand même apporter quelque chose. Mais ce qu'il a dit, à mon avis, et qui est très important, c'est de demander quand même aux élus la clarté de la législation. Parce que une chose est de voter les lois, l'autre chose est que le citoyen comprenne les lois qui sont votées. Et maintenant, transcrire cela dans la pratique de la gestion de la chose publique. C'est ça qui sera très important à mon avis. Maintenant, je me dis, il a dit hein, que bon, tout ce qu'ils vont faire, c'est dans le changement structurel et tout, ça veut dire dans la 5e République. Mais maintenant, les citoyens attendent forcément de voir ce que ça va changer dans leur vie quotidienne. Il ne suffit pas de dire, mais il faut agir.
Il faut agir, c'est très important. Justin, oui. D'aucuns sont aussi pessimistes que Jean-Baptiste, et parce qu'ils se disent, mais avec le nouveau président Adéjé, est-ce qu'on pourra interpeller même des ministres, et des ministres peuvent venir alors s'expliquer sur un certain nombre de choses à l'Assemblée?
Oui, en dehors de ce discours, moi je pense qu'il y a un certain nombre de questionnements qui méritent d'être posés. À l'analyse, je me suis posé également beaucoup de questions.
Comme ?
Lorsqu'il est question de l'alternance dans un pays, il y a certaines valeurs qui sont non négligeables. Ça me ramène par rapport à la déclaration faite par Marine Le Pen, puisque j'ai suivi l'actualité française le dimanche. Lorsqu'il parlait de l'alternance, il a dit, je l'assiste en ce sens, rien n'est plus intéressant en démocratie que l'alternance. Lorsqu'on parle de la démocratie, d'abord, il y a un certain nombre de critères qui sont non négligeables. On parle du président de l'Assemblée nationale, M. Adéjé. un pouvoir législatif dont la mission est claire, légiférer et contrôler l'action du gouvernement.
Tout à fait.
Beaucoup sont passés par là. Est-ce qu'ils ont eu à le dire, à jouer ce rôle-là? J'en doute.
Légiférer, oui.
Légiférer, oui. Contrôler l'action du gouvernement. Ah bon. Et ça pose un problème de la séparation de pouvoir. C'est là où moi je dis qu'il y a, dans ce système politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est Faure Gnassingbé. Et quand vous analysez même ce qui se passe, je me pose la question de savoir si nous sommes dans la 5e République ou la 4e République. Et j'en doute. Il a fait un discours, on parle de dispositions transitoires par rapport à la 5e République. Cette 5e République à laquelle les gens sont debout, les gens sont contre. Vous étiez là à Kassimé le dimanche dernier, vous avez vu, vous avez attendu les gens. Et je me dis que si véritablement on pense à l'intérêt du pays, à l'intérêt du peuple, on doit écouter également ce peuple-là. Le discours est bel et bien là, mais l'acte qui sera posé après, et les démarches, les actions politiques qui seront posées également après, devaient être des démarches où les éléments auxquels le peuple doit adhérer. Si vous dirigez, vous n'avez pas l'adhésion populaire, vous allez beau faire, vous allez beau poser les actes qui, en réalité, qui sont des actes corrects, mais qui seront toujours déboutés parce que vous n'avez pas l'adhésion populaire. Tel que les élections législatives régionales ont été conduites la fois dernière, on a vu les résultats avec tout ce qui va avec. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une force qui est quelque part qui dit, nous sommes là, on s'impose à vous, vous voulez ou vous ne voulez pas, le chien à boire, la caravane passe. Et moi, je pense que quelle que soit la volonté qu'on a, si on n'a pas cette notion d'aller vers l'excellence, d'aller conduire le pays vers ce que nous admettons, on peut avoir de beaux discours, on peut avoir des envies, mais lorsqu'il y a un chef d'orchestre qui est là, qui est Faure Gnassingbé, dont la question de l'alternance n'est pas de son agenda, je pense que ça ne marchera pas.
Adam, c'est du beau discours.
Bon, vous savez, il y a un aspect dont l'on doit se tenir compte, parce que quelque part, cette question d'alternance qui revient, c'est vrai que lorsque nous prenons les opinions, les diversifier sur la question. Mais naturellement, la question est de savoir le but, la finalité, c'est quoi? C'est le bien-être de la population.
Tout à fait.
Mais pour le moment, je pense que chacun joue son rôle. Il a parlé de séparation de pouvoir, mais à Dédé, il a été donc élu président de l'Assemblée nationale. Il dit ce qui est son entendement et ce qu'il veut faire en réalité de cette législature-là en interpellant les députés à un sens du devoir. Parler du sens du devoir, vous avez dit quand même que les prérogatives qui sont assignées à ce pouvoir-là, législatif, dans une 5e République, parce que lorsque n'allons plus revenir sur les points liés donc à cette 5e République, que j'estime quelque part. Voilà pourquoi d'ailleurs même, j'aurais bien voulu qu'après l'intervention de notre ami qui appelait donc à une activité hier, que l'on puisse prendre la parole.
Demain plutôt.
Bon, demain, que l'on puisse prendre la parole et intervenir. Quelque part, si en réalité, parlant donc de cette nouvelle constitution, que naturellement, il est bon de pouvoir donc égrener un certain nombre de points pour éclairer l'opinion, la lanterne de l'opinion, c'est un bon show. Mais lorsque nous le prenons dans une position assez tranchée, parce que quelque part, aujourd'hui, c'est vrai, il le dit, les gens sont vent debout, mais en réalité, est-ce que ceux qui sont vent debout, lorsque nous scrutons réellement cette conscience, est-ce que nous n'avons pas des points où l'on peut saluer en réalité qui vont réellement dans le sens de l'intérêt général? C'est là où la question se situe aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait avoir une position tranchée pour être tranchée ou pratiquement des vertus qui peuvent permettre à ce que nous ayons donc des éléments comparés qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier en réalité cette constitution. C'est de ça qu'il s'agit en réalité.
Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Eric,
alors,
rapidement.
Non, je voudrais dire à mon frère Justin, j'ai suivi aussi Marine Le Pen, quand elle a dit ça, après elle est en train de proposer quelque chose à Macron. C'est-à-dire que si le Rassemblement National gagne les élections législatives là, ça veut dire que Bardella, qui est le président du parti RN, va conduire la primature et elle propose à Macron un rôle à titre honorifique. C'est-à-dire, il sera le président de la République, mais il n'aura plus les mêmes pouvoirs.
Ça n'implique pas un changement de constitution.
D'accord, ok. Nous allons maintenant mettre fin. Nous allons mettre fin au débat. C'est bon, cher confrère. Nous allons mettre fin au débat et nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs puisqu'ils s'impatientent à rentrer en ligne, à participer à ce débat avec nous. Donc, vous pouvez rentrer en ligne sur le 22 21 33 114 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons maintenant à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 ou en 315. Thomas qui insère notre premier auditeur. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour, M. Platy.
Comment vous allez?
Oh, très bien.
D'accord.
Bon, je pense que en politique, le mot actionnaire n'existe pas dans le répertoire du parti au pouvoir. Ça revient à la politique. Pour le pouvoir, comment conserver le pouvoir? Parce que si nous voyons aujourd'hui, ils ont traqué pour parler de la terre, par leurs problèmes. C'est quand le projet de. Si nous voyons aujourd'hui les élections de l'Ordre, lorsque nous avons un parti politique, de toute manière, il ne s'agit pas de débat avec les électeurs canadiens. Nous demandons pourquoi quatre partis étaient dans le problème. C'est là le problème. Et là, aujourd'hui, on peut se positionner, piéger ou ne pas piéger. C'est ça la différence. Et pour moi, ce que je veux dire, c'est que je suis organisé.
D'accord. Merci beaucoup Pélé pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. Allô,
bonjour le plateau.
Bonjour monsieur Gado.
Ah, comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Oh, ça va très bien. Je voudrais demander parmi vous là-bas qui a le courage de manifester son plaisir à propos du débâcle de Macron. Moi, je suis très content. Et ça, c'est l'urine. Le reste, bien. Merci, bonne journée.
D'accord. Bonne journée. Personnellement, je n'ai pas compris ce que vous avez dit quand même. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour.
36-63-75. Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, c'est...
Pardon, votre nom, c'est?
Jean Akweté.
Jean Akweté. Vous nous appelez de quel quartier?
Agbalepedo.
Agbalepedo, allez-y Jean.
Oui, c'est Pascal. Je pense que le monsieur écrivain qui est chez vous, j'aimerais intervenir sur son point.
Tout à fait, il est toujours là.
Ok, bon. Est-ce que son combat n'est pas déjà perdu d'avant? C'est un questionnement, une question. Est-ce que son combat n'est pas perdu d'avant dans un monde dans lequel nous sommes tous pervertis de jour en jour? Et je pense que... C'est vrai, on doit l'encourager, on doit toujours l'inviter à parler à la jeunesse pour que les jeunes parlent concrètement l'avantage de protéger avant, de ne pas connaître le rapport social avant le mariage. Maintenant, est-ce que la jeunesse vraiment est touchée? Quel est le bilan qu'il peut nous faire? Maintenant, est-ce que vraiment le groupe peut prendre ces paroles comme un bouclier pour avancer mieux? Nous pensons comment, nous voyons comment la jeunesse est cassée de tout. De l'avènement de TikTok. Comment est-ce que les gens prennent cela comme un avantage à leur côté? Et est-ce que son combat n'est pas perdu d'avance? Je vous remercie.
D'accord. Merci beaucoup, Jean, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 ou 315. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom?
Oui, monsieur Kao.
Monsieur Kao, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle d'Agoué.
Agoué, allez-y, monsieur Kao.
Oui, j'admire beaucoup votre émission.
Merci beaucoup.
Mais je vais commencer par perdre l'intérêt parce que souvent en début, vous traitez de l'abstraction, le cas d'espèce ce matin. Vous parlez d'abstinence, tout ça là maintenant, vous êtes limité par le temps quand vous, vous prenez les débats politiques. C'est les débats politiques, c'est la gouvernance politique qui produit les résultats économiques pour le bien du peuple togolais. Mais quand en début d'émission vous commencez, vous restez dans les conjectures abstraites. Maintenant, le temps de débattre de la politique, c'est ce qui intéresse les Togolais et l'économie, c'est ce qui intéresse les Togolais. Donc, je vous prie de laisser l'abstraction en début d'émission pour avoir de la variété des sujets. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kao, pour votre intervention. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Nous parlons de tous les sujets possibles. Nous discutons de tous les sujets possibles parce que ça fait partie également de notre vie sociale. Ça intéresse bien les Togolais. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63,
75. Allô? Allô, c'est Monsieur Gallo, je disais.
Oui, Monsieur Gallo.
Si quelqu'un a le courage de manifester son plaisir à propos du débâcle de Macron, puisque moi, je suis très content. Ça, c'est l'urine. Le reste, vient. Merci, bonne journée.
D'accord. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous aussi. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse. Allô? Allô? 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est...
C'est Monsieur Vincent de Pougan.
Monsieur Vincent depuis Pougan.
Concernant le discours du président de l'Assemblée, là, moi, ce que je préfère, là, il n'a qu'à attendre à ce qu'on applique la 4e République, là, qui a l'élection 2025, il n'a qu'à déposer sa candidature et il sera élu président de la République. Car que moi, je croirais que le discours qu'il a annoncé, là, il peut faire quelque chose. Mais, il parle encore de la 5e République là, et il donne un discours qu'on va accepter là. Moi, je ne peux pas accepter. C'est le même système. Qu'est-ce qu'il va faire? Même quand Victoire Dominga de Gaulle, la première ministre, là, il a annoncé quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire avant de partir? Non, moi, je trouve ça injuste. Ok, à tout à l'heure.
Merci beaucoup, Vincent. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Bonjour, Kamala.
Oui, bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Monsieur Céleste. Depuis la Tibou.
Pardon, c'est...
Oui, oui, je... On appelle...
Non, nous avons vraiment de difficultés à vous écouter. Allô? Non, ça s'entrecoupe. Hein. Tout le monde, nous allons se passer à l'heure de cet auditeur. On reçoit un autre. Allô? Allô? Bonjour. Allô? 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui. Oui.
Allô?
Monsieur Coco. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Fosséni.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, c'est Pascal.
Je salue le plateau. Allô?
Allô, votre nom c'est?
C'est Monsieur Coco.
Monsieur Coco, d'Adido Gomé. Oui. Allez-y.
Oui, oui. Et je salue le plateau.
Allez-y.
Tout à l'heure, moi je vais revenir par rapport à tête de la législation prise par Monsieur Adéye. Oui, tout à l'heure, on disait que les ministres pouvaient accepter, venir s'expliquer quand on les interpelle. Voilà, ça, c'est un problème. Donc, on attend de voir, parce que une chose est de faire des lois et une chose est de les mettre en application. Si, dans le temps, il y a des avait été interpellé, il ne peut pas. Le moment viendra où il va interpeller d'autres. Ils vont venir, on va voir. Donc, dans le FET uni, c'est le wait and see pour le moment. Puisque nous avons remarqué que si quelqu'un veut faire quelque chose de très bien, de mettre le bâton dans le cou, c'est ce qui va se passer avec M. Adedou. Attendons de voir.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça. Le FET uni, comme ça. Donc, attendons de voir ce qu'il lui sera capable de faire.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Coco. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Décidément, Thomas, nous allons prendre un autre auditeur. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô, madame ici, bonjour.
Bonjour.
Oui, madame ici, bonjour.
Bonjour à tous là-bas. À Dimas, Tikodo. Je passe ton antenne. Je viendrai payer après.
D'accord, voilà. C'est important.
Bon, pour éviter tout ça là. C'est pas pour, c'est pas à cause de ça qu'on a des lois de la République pour éviter que les gens gouvernent à éternel, ils se sucrent, ils font ce qu'ils veulent et que vous vous fatiguez à nous donner des leçons politiques. Vous vous fatiguez vous aussi là-bas. Et c'est pour éviter tout ça qu'on a des lois de la République, non. Il faut alterner tous les 5 ans. Ce qui n'est pas faisable, c'est les Togolais. Les Togolais, on devait vous flanquer 2 ans de gouvernance dans les mandats. Là. 2 ans, ça suffit. Ensuite, on fait 1 an. Il n'y a même pas de président là-bas. Tout le monde est président. Hein? Et c'est pas pour éviter tout ça là qu'on a des lois de la République. Hein? Des débats inutiles, associations par-ci, des meetings, des machins, en Amérique, à Canada, à moi. Non! Il faut aller dans la juridiction maintenant. Arrêtez tout ça là, vous aussi là-bas, vous serez tranquille, vous rentrerez dans vos droits de 10 milliards d'allocations, de budget pour les journalistes. Et moi aussi, on me fera le rappel des 200 000 par mois d'allocations auxquelles j'ai droit. On me fera le rappel des 60 ans. Merci
beaucoup, Madame Issi, pour votre intervention. Nous avons le temps, quelques minutes, hein, pour recevoir notre dernier auditeur. C'est ce que Thomas nous annonce. Allô? Allô, bonjour? Allô? 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Je pense que ça devait être notre dernier auditeur que nous devons recevoir. Et donc, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de partir. Et Sam Adamounou, c'est vrai, vous avez écouté les uns les autres. Vous avez été interpellé, même entre-temps, par un auditeur, c'est Jean à côté. Jean à côté qui nous a appelé alors d'Agbalé Pédo, qui posait la question de savoir, est-ce que votre combat n'est pas perdu d'avance, puisque nous sommes dans un monde déjà perverti?
Non, en fait, le contexte du monde, elle est certes pervertie, parce que nous, si on arrive à convaincre 20% de la population de cette masse, déjà, c'est déjà une grande chose. Parfois, c'est que sur certains sujets, il faut qu'on prenne un peu de la hauteur, parce qu'il faut l'étudier. Parfois, on n'étudie pas certaines questions en profondeur, et on pense que nos réalités sont des vérités. Et cette question de l'abstinence sexuelle, moi je dis que j'ai conduit une association pendant 20 ans. J'ai vu des jeunes s'abstenir. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il faut asseoir la conviction du jeune et créer la condition pour l'amener. C'est le travail des parents, en fait. C'est le parent des éducateurs. C'est le travail des pasteurs. C'est le travail des prêtres et des imams pour construire une valeur, un socle social, en réalité. Il s'agit de ça, en réalité. Parce que quand on dit que c'est gagné d'avance, je disais tantôt que qui veut être et prendre une femme ou un homme, une femme qui est déjà l'est de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Mais revenons sur les valeurs et construction des valeurs. Et c'est de ça qu'il est question. Même si ce n'est pas facile, parce que nous parlons de gagner le pari. Ça veut dire que c'est déjà difficile. Donc, il faut d'abord asseoir la conviction des jeunes et de les amener à aller à relever ces défis. Nous, on l'a relevé et nous montrons un peu les recettes pour pouvoir y arriver. Et donc, je crois que c'est ce travail-là, c'est un travail de nous tous. Et ne serait-ce que 20%, c'est déjà quelque chose dans ce lot. Pour le premier qui parlait d'abstraction, je crois qu'il faut que nous fassions un effort. Parce qu'ici, il s'agit de la construction du Togo. Nous bâtissons la cité, c'est avec les valeurs que nous la construisons. Mais là, si vous avez des gens qui ont appris, parce que dans le livre, nous avons montré qu'il y a deux choses qui sont importantes dans la vie pour réussir sa vie. Arriver à maîtriser le sexe et son rapport avec l'argent. Si vous arrivez à dominer et avoir le contrôle de toutes ces passions, de ces élans, c'est que vous résolvez à 70% certains problèmes de votre vie. Et donc, si nous arrivons à construire une génération de jeunes qui respectent des valeurs, et demain, qu'ils seront aux affaires ou à des postes de décision, ces valeurs vont triompher. Mais si nous voulons parler, tout le monde, aujourd'hui, on fait le coq à l'aile dans la politique, on vient en raconte, mais finalement, on fait un peu du surplace. Parce que quelque part, certaines valeurs sont perdues. Et donc, je crois que il faut. Nous avons une un auditoire ici qui est pluriel. Et donc, il faut quand même que bon, enfin, qu'on souffre que par moment, qu'on parle des sujets qui nous concernent, parce que l'abstinence sexuelle, c'est des valeurs africaines.
Tout à fait.
Et je pense qu'il faut les promouvoir et les encourager. D'accord. C'est ce que nous essayons de faire avec ce document.
Merci beaucoup. Alors.
Mais je rappelle même que dans Pakudo, Eric est déjà pris par le lit parce qu'il regardait et je sais que il m'a parcouru parce qu'il m'a dit s'il devait refaire certaines choses, je pense qu'il ne ferait plus le faire comme il a fait.
Bon, il est séduit par
on a déjà raté notre
parce qu'il me disait tantôt que lui là raté sa vie alors.
Ok, ouais, Adam, on est à la fin de cette émission.
Non, moi je reste toujours sur cette ambition exprimée par le président de l'Assemblée nationale concernant cette législature. Je pense qu'il aura, il trouvera les mots justes, les éléments justes, les clichés justes pour réellement faire en sorte que cette démocratie puisse triompher avec naturellement la presse. Et quand je le dis, contrairement à ce que d'autres disaient, je parle sous le couvert de Jean-Baptiste qui le disait comme le prenait comme un prédateur de la presse, mais tel n'a pas été le cas. Je parle avec des actes factuels. Parce que l'homme, quand il a inauguré l'avènement de l'RMP, c'est lui qui a fait intervenir la presse dans le conseil d'administration de l'RMP devenu aujourd'hui ARCOP. Ça voudrait dire quelque part que c'est tout ce qu'il fait. Il veut être évalué ou pratiquement être apprécié par cette presse-là qui est plurielle. C'est également lui, je le disais ici, qui a organisé ici une conférence Togo où le mérite de la presse a été récompensé. Après lui, il n'y en a pas eu. Après toutes les conférences, on n'en a pas eu. C'est également lui, nous l'avons vu au niveau de l'ETR, qui a étendu véritablement ce que la presse puisse être là. On l'a vu également avec c'était partout où il est passé, il a travaillé avec la presse. Je sais que cette presse est assurée au cœur de ses ambitions.
D'accord, merci beaucoup, Adam. Eric.
De toute façon, au même moment, c'est lui également qui a porté plainte contre la presse. Les journalistes. Bon, l'un dans l'autre, ce que nous souhaiterions très vivement, c'est que le président de l'Assemblée nationale actuelle a fait un discours. Mais nous savons également aujourd'hui la configuration de cette Assemblée nationale, composée à plus de 98% hein, de membres de UNIR. Maintenant, on se dit, mais c'est quand même, on peut dire que c'est un préjugé, mais on se dit qu'il n'y aura pas de débat de fond. Maintenant, pour des sujets qui concernent la nation, je souhaiterais vivement, nous souhaiterions, enfin, les Togolais, qu'il y ait des débats en dehors de l'Assemblée nationale parce qu'il y a des partis politiques extra-parlementaires, les associations de la société civile et tout ça, qui ont également leur mot à dire sur des lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale. Qu'on permette qu'il y ait un débat dans le pays. Et là, j'en appelle à tous ceux qui refusent d'aller au débat. On invite des gens sur des sujets qui concernent la nation, mais ils ne viennent pas. C'est un vrai souci. Mais je demande, encore une fois, je suis qui ? Nous demandons au président de l'Assemblée nationale de faire cet effort-là pour que le débat sorte également de l'Assemblée nationale et qu'on prenne en compte les positions de tous les Togolais. D'accord. Et là, okay. Je crois qu'on aura, comme il a dit, des lois qui sont à la portée de tous les citoyens.
Merci beaucoup, Eric. Justin ?
Non, l'Assemblée nationale n'est pas plurielle. Elle n'est pas plurielle, donc ça voudrait dire qu'il ne va pas y avoir de débat. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que...
Il y aura débat.
Dans le système politique actuellement, il y a un chef d'orchestre donc, qui oriente la vie de la nation. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose. Dommage qu'il n'y a pas tellement assez de temps, sinon on va rentrer également dans un certain nombre de choses où on va expliquer. Et tout à l'heure, Eric parlait du discours de Le Pen lorsqu'il faisait allusion par rapport à ce qu'elle a déclaré sur la prochaine position du président français Emmanuel Macron. Si véritablement RN arrive à avoir la majorité absolue, aujourd'hui le débat est là. Est-ce que RN va avoir la majorité absolue? Mais le volet qui est important dans mon intervention est qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans parler de l'alternance. Et c'est là où cet aspect est très important. Lorsque Marine Le Pen parlait du fait que ça a plus de 60 ans après la guerre et que c'est pratiquement sur le système. Maintenant, sur ce qui concerne le Togo, je pense que tel que c'est annoncé, tel que c'est positionné aujourd'hui, on ne va pas attendre grand-chose.
D'accord. Jean-Baptiste?
Oui, je crois que le débat, vous parlez de débat à l'Assemblée, je crois que le parti au pouvoir a refusé le débat à l'Assemblée. C'est pourquoi les élections bâclées ont été organisées et les résultats sont là aujourd'hui. Si il doit y avoir débat à l'Assemblée, c'est à travers les élections. Mais les élections étant biaisées et les résultats sont là aujourd'hui, un Parlement à presque 100% uni, ils n'ont qu'à aller débattre seul, faire le monologue à l'Assemblée.
D'accord. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci Adam, merci Eric, Pakudo Johnson, Justin Nani, merci. Merci à Sam Kodjovi, Adam Bounou, auteur du livre Un voyage à travers la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu également à nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Thomas était d'Ativi qui était au niveau de la technique. Alors pour cette émission, Jérôme Dakoutia a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou, je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.